21h minuit, c'est la libre antenne de Vanessa sur Peur FM.
Et c'est maintenant la libre antenne puisqu'il est 21h. Bah oui, pardi. Allez, on y va. Les premiers arrivés, les gagnants, voilà, les premiers servis.
On est mercredi. Hein.
Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi?
Bon, bah je m'en vais. Man. T'as dit pardi.
Ah, pardi.
Voilà, dans l'inconscient, on aurait pu comprendre mardi, et puis voilà.
Pardi. Bon, bah écoute.
Mais non, on est mercredi.
J'ai inventé. Bah non, il y a mardi, il y a pardi, il y a mercredi, et percredi. Voilà,
percredi.
C'est ainsi. N'importe la wak. Mais bon, on va lui pardonner, le garçon.
Ah oui.
Il a un bonnet sur la tête, c'est normal.
C'est ça. Alors,
le temps que l'information arrive aux neurones, faut traverser quand même le tissu du bonnet. Plus,
exactement.
Plus le casque.
Il y a le casque et tout ça.
Ah oui, il y a beaucoup de choses.
Donc les fils, le casque, les caméras sont nerveuses qui retranscrivent tout à mon cerveau.
Ouais.
Et tac.
Bah ouais, ça fait bug.
Boum, boum, boum.
Voilà, exactement. Bon, ben on y va, Jérémy, comment vas-tu?
Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous, ça va bien.
Ça va bien?
Oui, ça va très très bien.
Bien. Bon, ben j'espère qu'on aura des bien ce soir, hein, puisque les Marseillais, les Toulousains, tout ça, tous les gens du Sud,
du
on
sud.
Vous attend, on attend la chaleur, on a froid, nous autres Parisiens, Parigots. Comment on dit Parigots, tête de veau?
De veau, Parisiens, tête de chien.
C'est pas vrai, on dit ça?
Ah, on dit ça aussi.
Oh, la honte.
Et
ah
oui,
non, mais
honte.
Ça, c'est vous, les Normands.
Ah ouais, non, mais...
Ah,
oui, c'est vrai.
Non, ah ouais, alors que nous, on respecte les Normands, les Toulousains, les Mexicains, tout le monde, quoi. On est comme ça, nous, les Parisiens. On a un grand cœur. On y va, 0153483000 pour un sujet ce soir. Ben, pas très joyeux, mais bon, ce qui fait partie aussi de notre réalité, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut l'affronter, il faut l'accepter. C'est ainsi. Donc on va essayer de vous aider à le surmonter, hein, surmonter cette peur. Comment surmonter la peur de la mort? Bon, j'espère ce soir recevoir beaucoup, beaucoup... Pourquoi tu ris, Jérémy?
Non, mais un beau sujet, quoi.
C'est un beau sujet.
Ça
je sais pas s'il est beau.
Non, mais pour moi, c'est très important.
Bah oui, ça pour, fait partie de notre réalité.
Mais certains l'évitent. Moi, ce sujet-là, je ne l'ai pas évité. Je le prends pleinement conscience de la mort et voilà, quoi.
Bah oui. Ouais, il faut l'affronter, on n'a pas
Exactement.
Le choix, c'est comme ça. C'est, en tout cas, c'est ce qui est de plus vrai. Ça, c'est une réalité indéniable, c'est clair. Allez, on y va. 0153483000, comment surmonter la peur de la mort? Alors, comme je le disais, j'espère vous recevoir nombreux et nombreux pour ce sujet. Pas pire qu'un autre, hein, pas plus délicat, pas plus. Voilà, qui fait partie de notre existence. Et puis, c'est une manière de l'exorciser, hein, d'en parler. Ben oui. Hein, voilà, tous ensemble, on va en parler, puis vous allez voir qu'on va y trouver quelques soulagements, peut-être, pour les uns, un peu d'apaisement, un peu de réconfort et de consolation pour d'autres, parce qu'il y en a qui sont en pleine peur panique, voilà, il n'y a pas de raison. Et Méziane, tiens, Méziane qui veut emporter la terre entière avec lui. Alors Méziane, c'est notre mascotte, hein, voilà, c'est notre fidèle auditeur qui appelle régulièrement. Et qui est bien connu pour ses coups de gueule surtout, et qui quand on parle justement de ce sujet-là, quand on aborde, eh bien c'est le sujet qui le tracasse le plus, Méziane. Ah oui. Alors il n'a pas le choix. Il dit oui, on n'a pas le choix, on est obligé d'y passer. Ok, mais à condition. Alors sa condition à Méziane, c'est que nous partions tous ensemble avec lui, main dans la main, qu'il parte pas seul, qui est vraiment la fin du monde, quoi, comme on l'appelle. La fin du monde, qui est plus un seul être vivant sur Terre, le jour où Méziane partira de cette planète. Voilà son vœu le plus cher à Méziane. Nous t'attendons, Méziane, d'accord, pour ce sujet. Comment surmonter la peur de la mort? Allez, on y va. 0153483000. Mais avant, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes qui sont incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir. Vous qui travaillez de nuit, une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune. Comment surmonter la peur de la mort? Eh oui. Alors, si certains parviennent à occulter la mort et s'accommodent de cette perspective inéluctable. Bah ouais. D'autres souffrent d'une peur de mourir pathologique. C'est plus fort qu'eux. La mort, ou plutôt la pensée de la mort, les accompagne au quotidien. Ils souffrent d'une incontrôlable angoisse de mourir jusqu'à l'obsession. Penser et craindre la mort des autres, de personnes proches, est une expérience des plus difficiles. Une pensée douloureuse et déconcertante. Mais se préparer à la sienne et au vide qui s'ensuit ne va pas de soi. Imaginer sa propre mort, c'est se confronter aux limites même de notre pensée. D'où le nombre important de personnes traversant à un moment ou un autre de leur existence une phase d'anxiété à l'idée de mourir. Allez, on y va. 01 53 48 3000. On va prendre un premier appel. Eh bien, on va accueillir Mourad qui nous appelle de Saint-Denis. Bonsoir Mourad.
Oui, bonsoir. Bonsoir tous les auditeurs, bonsoir tout le monde.
Merci à toi, bienvenue à toi Mourad. Alors
Moi, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un travail que j'ai fait sur moi-même depuis plusieurs années, en paix, en sereinement, etc. Et j'aimerais faire une petite intervention que je vais axer sur deux choses. La première, elle est générale, et dans laquelle il y a des choses que je vais dire qui sont un peu dommages. Ce que je trouve dommage, c'est que en France, au niveau scolaire, au niveau de tout ce qui est pédagogie, d'éducation, etc., c'est un sujet qui est très très occulté. On n'en parle pas aux enfants dès l'enfance. Il y a un gros tabou autour de la mort. Et ça, c'est vraiment dommage parce que moi, je pense, peut-être que je me trompe, que plus on va s'y prendre tôt, plus on va en parler tôt, plus on va expliquer que cette chose-là fait partie de la vie. Et plus, je pense que quand l'adolescent va se construire et l'adulte par la suite, les choses seront plus simples. Et la petite métaphore que je me suis inventée, elle est de moi. Il n'y a pas de copyright là-dessus, mais si vous l'avez, qu'elle vienne de Mourad.
Super.
Essayez d'imaginer un enfant, un bébé dans le ventre de sa mère. Il a 9 mois, il ne va pas tarder à sortir dans quelques jours. Et il y a un moyen de communiquer avec lui.
Mais Mourad, on ne t'entend pas très bien. Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone?
Je vous disais, imaginez un bébé dans le ventre de sa mère, il a 9 mois, il va sortir dans quelques heures.
Ouais, ouais.
Et nous, on a un moyen de communiquer avec lui.
Ouais.
Et il nous dit en pleurant et en nous suppliant, non, pitié, je ne veux pas sortir, je vais rester dans le ventre de ma mère. Et nous, on va lui dire, mais mon grand, mais viens, tu vas voir, ici, il y a des jardins, il y a à boire, il y a à manger, tu as une maman qui va t'aimer, il y a des avions, et puis il y a des beaux vêtements, et puis tu auras une chambre, et des frères, des sœurs, et des voisins, et des amis, et des écoles. Et puis, il vous supplie, non, je ne veux pas. Et bien, quelque part, il faut que maintenant, nous, on voit la mort de la même manière. Et après, tout ça, c'est des questions de conviction. Il y en a qui sont croyants, pas croyants. Moi, ça me fait du bien de croire qu'il y a un Seigneur qui est juste et qui a un endroit avec des gens qui seront récompensés et que j'aimerais faire partie de cela. Après, c'est ce qui m'apaise moi. C'est mon petit truc à moi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'il faut prendre sereinement. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, qui est aussi un peu moins gaie, mais ça fait partie aussi du débat, c'est que là, on parle de la mort en pensant que tous, on aimerait tous mourir de vieillesse dans un lit. On est d'accord. On aimerait tous mourir de vieillesse, très vieux, dans un lit, à l'hôpital ou à la maison, avec ses proches autour de soi. Mais en vérité, on l'oublie un peu souvent, on ne choisit pas. On peut mourir demain, après-demain, dans 4 heures, dans 12 jours, avant la fin 2018. Après, voilà. Ça, c'est aussi le petit côté qui nous angoisse. C'est un peu cette espèce de loto, là, cette loterie, là, sur quelle case va tomber la bille. Mais bon, il faut vivre avec, il faut faire avec. Il faut un équilibre, en fait. Il faut un équilibre. Il faut se dire, on est dans cette vie d'ici-bas. Il y a des choses à profiter. Il y a la famille, il y a les amis, il y a le bon temps, il y a les joies, il y a les anniversaires, les mariages, les baptêmes, tous les moments où on peut profiter de son entourage, il faut. La méchanceté, le mal, on en fait tous parfois, on en dit tous parfois. Il faut vraiment se battre pour éviter d'en faire, éviter de faire souffrir les autres. En fait, tout simplement, ce que je suis en train de dire, c'est au bon sens, essayons d'avoir une belle vie pour avoir une belle mort et une belle fin. C'est tout. Qui vivra,
c'est juste magnifique ce que tu nous dis là. Moi, je bois tes paroles. Tu vois, je ne t'ai pas coupé parce que j'adhère à tout ce que tu as dit et je pense exactement comme toi. Et je trouve que c'est très poétique en même temps de la manière dont tu en parles. Et tu as abordé aussi, tu as touché du doigt quelque chose de très important. Mais oui, c'est les enfants. Et c'est vrai qu'ici ou ailleurs, nulle part, on ne parle pas de la... Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a des pays où on ose aborder le thème de la mort aux enfants et on n'essaye pas d'expliquer, mais d'essayer d'apaiser. Tu as raison. C'est vrai que du plus loin, parce que je pense que tu as fait appel à tes souvenirs d'enfant et moi, tu m'as poussé à plonger dans mon enfance parce que c'est vrai que du plus loin que je me souvienne, quand j'ai pris conscience de la mort toute petite, eh bien... C'est vrai que c'était une grande frayeur, c'était le néant, c'était le trou noir, c'était la peur. Et la peur de quoi? C'est même pas la peur de... Parce que nous, on s'imagine même pas, on se projette pas. On se projette pas soi-même. Mais par contre, la peur de la personne qui est la plus proche, sa maman. Sa maman, quand on est un petit enfant, sa protectrice, eh bien, quand on apprend que la mort existe, quand on a conscience de ça, quand on est un petit enfant, tout de suite on pense à sa maman et la peur de perdre.
La grande angoisse.
Ah là 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 là, quelle anxiété. Et ça, bravo Mourad, c'est vrai, tu as raison. Personne ne parle aux enfants. Et quand je dis personne, peut-être les parents essayent de trouver les mots, bien sûr. Mais il n'y a pas de pédagogie. À l'école, on n'en parle pas. Ça, c'est vrai. C'est un sujet qui reste tabou. Il n'y a aucun manuel scolaire qui l'aborde non plus.
Ben, regardez, tellement c'est parti loin. Même le mot la mort, on ne dit plus la mort. Il est décédé.
Ouais.
Les cimetières, ouais, du côté de la voie publique, sont murés. C'est quand la dernière fois que vous avez marché dans la rue et vous avez vu un cimetière avec des grilles?
Ah mais ça c'est en France et en Europe. Par contre, Mourad, tu t'appelles Mourad et je pense que tu as des origines comme moi. Voilà, comme moi j'en ai en Algérie, Maroc, Tunisie, tout ça, dans tous les pays musulmans en général, arabes. Eh bien, et musulmans, eh bien, il n'y a pas de mur.
Effectivement.
Ah, il n'y a pas de mur. Moi, mon cimetière, le cimetière de la ville de naissance de mes parents, eh bien, qui est Cherchel, eh bien, c'est un cimetière qui est sur une colline ou une montagne, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais plutôt une colline assez haute, et qui, justement, fait face à la mer. Et j'ai toujours trouvé, tu vois, quand on y va, eh bien, il y a cette tristesse, parce que on a perdu des êtres chers qu'on enterre là-bas, hein, on les emmène d'ici pour là-bas. Mais en même temps, il y a cette douceur du paysage.
Il y a une harmonie avec le décor.
Mais oui, voilà. Il y a ce ciel qui à l'horizon, qui se marie avec la mer à l'horizon et qui fait face justement à toutes ces tombes et toute cette belle verdure et ces fleurs, etc., 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 et ce soleil. Eh ben, je t'assure que ça te réconcilie pas mal avec la mort et tu te dis, bon, c'est là où je vais être enterré, quoi. Non, mais voilà. Et il n'y a pas de mur. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de mur. Ben oui. Et c'est vrai que ces murs gris, ici en France et en Europe,
c'est un gros tabou,
ça sépare, voilà, ça sépare vraiment, vraiment le monde des vivants. Mais c'est violent, hein, parce que c'est soudain.
Vous savez qu'en France, les corbillards, les véhicules qui servent à transporter les cercueils, ils ont des horaires réglementaires pour circuler dans les villes.
Ah bon? Ah, je ne savais pas.
Ça va très très loin. Hein.
Ah oui.
Ça va vraiment très très loin. Et moi, je trouve ça dommage et pas normal, parce que la France, c'est quand même une civilisation. En France, c'est les intellectuels, c'est pas ce qui manque. Il y a quand même des gens. Il y a beaucoup de littérature. Il y a beaucoup. La France, c'est un pays qui a produit beaucoup en termes de pensée. Mais sur la mort, il y a un gros tabou.
Il y a un tabou, hein, c'est vrai ça. Hein. Et on n'en parle nulle part. Regarde par exemple les différentes émissions à la télé, et Dieu seul sait si elles sont riches en thèmes, etc. On parle de tout, hein, vraiment, de tout, de sexualité, de tout ce que tu veux. On aborde tous les sujets. Par contre, le sujet de la mort, ben, il est pratiquement jamais abordé. C'est vrai, hein, il est occulté, parce que tu as beau essayer de chercher dans les émissions bien connues, hein, de par exemple sans la nommer du samedi soir ou autre, eh bien non, au grand jamais on ne parle de ces de la mort, on l'aborde pas. Alors je sais pas, mais moi je trouve que c'est dommage, parce que juste on peut en parler, tu vois, regarde là on en parle toi et moi sur un ton pas un ton disons funèbre, ou voilà, on en parle comme on parle de choses de la vie, c'est des étapes,
c'est un fait.
Ben oui.
Et le truc, c'est que la France, c'est quand même un pays qui a connu deux guerres mondiales, donc sur son territoire, quand même, avec des pertes énormes, etc. Je pense, peut-être que je me trompe, hein, je pense que les anciens, jusque dans les années 70, 80, peut-être que tu te souviens, si tu étais en France, quand tu étais petite, quand on montait dans le bus et qu'on s'asseyait, il y avait une petite plaque dans le bus et dans le métro qui disait « Ordre de priorité pour s'asseoir, les femmes enceintes et les invalides de guerre ».
Oui, oui, oui. Ah, il y avait même les gueules cassées, il y avait des, comment on appelle ça, des espèces de petits kiosques où on vendait des billets de tombola, et ça revenait aux gueules cassées. Alors, les gueules cassées, c'était les blessés de guerre, ceux qui avaient le visage explosé, déformé, etc., par les éclats de je ne sais quoi, d'obus, de balles, etc. Ah, je me souviens, en fait, bien sûr. Oui.
Pourquoi j'ai marqué l'accent sur cette petite affiche qu'on lisait quand on était gamin? Parce que à cette époque-là, bah, les gens, ils savaient ce que c'est que la guerre, les rations, être envahi, toutes les contraintes que la France a subies, la vie dure, la vie était dure. C'était marqué dans l'histoire de toutes les familles de France qu'il y a eu des gens qui sont morts pour pendant la guerre.
Bien sûr.
Et ça s'est perdu, tout ça s'est perdu, tout ce qui est, c'est, je sais pas, mais j'ai pas envie de faire mon paranoïa, mais j'ai même presque l'impression qu'il y a une volonté un petit peu d'occulter tout ça. Et c'est vraiment dommage.
Bah oui, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Oui, oui, tu as raison. Oui, parce que la mort faisant partie de la vie, eh bien, on devrait aussi, parce que je pense que ça apaiserait beaucoup d'anxieux. Il y a des personnes qui sont, elles le disent pas ouvertement parce qu'elles ont honte, mais qui n'a pas entendu, tu peux, quand tu abordes le sujet de la mort autour de toi, Mourad, tout comme moi, eh bien, quand on est avec une assemblée d'amis, eh bien, parmi eux, il y a une grande majorité qui te dit, les langues se délient et les gens ont peur de la mort. Hein, sérieusement,
il y en a certains qui demandent à changer de sujet et tu passes même presque pour un rabat-joie. Hein.
Ah oui, 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 ah oui, oui, c'est pas faux. C'est pas rabat-joie pourtant.
C'est pas évident quand même. Hein.
Non, c'est pas évident,
en tout cas,
c'est vrai.
Moi, ce que j'ai un peu comprendre, c'est que humainement, dans la psychologie et les philosophes, ça fait très longtemps que ça a été écrit, l'homme, de par nature, il a toujours eu peur de l'inconnu. Ça, c'est un fait. Hein.
C'est pas faux.
Et comme la mort, quelque part, c'est vraiment le plus gros inconnu de cette vie. Hein.
Ah, oui,
parce
oui.
que personne n'en est revenu pour nous ramener le mode d'emploi.
Non, c'est vrai.
Ça alimente une angoisse, ça alimente une peur. Et c'est pour ça qu'après, les religions, elles jouent leur jeu d'apaiser, justement.
Oui, mais elles le font tellement mal pour certains qui l'utilisent à mauvais escient. Hein, on est d'accord.
Ah oui, malheureusement.
Alors c'est souvent le cas. Et bien voilà, t'as des gens qui pensent voilà. Alors que la mort, faut la laisser là où elle est. Quand elle doit arriver, elle arrivera. Mourad, tout à l'heure tu disais on occulte. On occulte aujourd'hui et effectivement, puisque fut un temps où on en parlait beaucoup plus aisément. Et alors toi, je ne sais pas si tu as connu cette période aussi. Moi, je l'ai connue. Eh bien, j'étais très jeune. Je me souviens de ces draps, de ces rideaux noirs, ces tentures. Tu sais qui étaient mise à l'extérieur des façades d'entrée d'immeubles avec une croix, bon, pour les chrétiens et puis pour les autres, rien, non, pas du tout, et les initiales du défunt. Alors ça, c'était les pompes funèbres, hein, qui mettaient en place cette tenture de deuil, hein, à l'entrée des immeubles. À l'époque, c'était comme ça. Quand il y avait un décès dans un immeuble parisien, eh bien, il y avait cette tenture, ce drap noir, ce rideau, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, il doit porter un nom, à mon avis, donc, qui était posé à l'entrée de l'immeuble, hein, qui recouvrait la porte d'entrée, et au-dessus, il y avait les initiales du défunt. Alors, donc, c'était très, très pratiqué à l'époque. Moi, je te parle de ça il y a pas mal d'années en arrière, hein, voilà. Et depuis, on n'en voit pratiquement plus. Quand je dis pratiquement, on n'en voit plus du tout. C'est-à-dire qu'avant, la mort n'était pas quelque chose de tabou, vraiment, puisque les enfants, nous, on rentrait de l'école, je me souviens, eh bien, on savait qu'il y avait un décès dans l'immeuble, parce qu'il y avait cette tenture, et on entrait
c'était,
dans notre immeuble.
C'était annoncé,
puis c'était dédramatisé, puis il y avait une forme aussi de reconnaissance, de respect, etc. Et puis en même temps, ça dédramatisait un peu, voilà, il y avait peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, j'en sais rien, mais on vivait auprès, avec, et sans pour autant l'occulter, alors qu'aujourd'hui, on n'en voit pas du tout. Oui, à part quand on voit justement ces véhicules de pompes funèbres, ces véhicules.
En tout cas, moi je suis persuadé que occulter une réalité, quelle que soit la réalité, hein, quand un alcoolique est alcoolique et qu'il reconnaît être alcoolique, il a déjà fait un pas dans sa guérison. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Ben quelque part, occulter la réalité de la mort, c'est se mentir à soi-même et il faut se soigner et guérir de ça.
Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, il faut vraiment trouver une
solution. Je vais essayer de finir avec des mots rassurants, comme ça, apaisants.
Oui.
La Terre, la planète Terre, elle nous donne beaucoup. De l'eau, des fruits, des légumes, des animaux, de la verdure, des paysages. De la Terre, on tire beaucoup de choses, nous les humains. On tire même un peu trop dessus, hein. Et quand on meurt, quand on part, on retourne à la Terre. Alors quelque part, on lui rend un peu de ce qu'elle nous a donné.
Oh oui, c'est très philosophique, en même temps poétique et philosophique, hein, ce soir. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais Enfin, je sais pas si je peux te donner un petit conseil d'ami, mais tu devrais faire quelque chose du domaine de l'écriture, tu vois. Je te verrais bien écrire des choses intéressantes. Je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, il y a de la philosophie dans tes paroles, hein, vraiment.
Pourquoi pas, oui. Ben, il faut relativiser. Moi, pour sincèrement, on a tous au fond de nous cette crainte. Mmh. On a tous cette peur de cet inconnu. On a tous peur du fait que la mort, c'est quelque chose de personnel qui se passe seul. On est venu au monde seul, on va repartir seul.
Oui.
Et entre l'arrivée et le départ, il s'est passé plein de choses. On a rencontré plein de gens formidables. Il s'est passé plein de choses dans notre vie. Mais le côté qu'on est seul et qu'on ne sait pas, c'est vrai que c'est angoissant. Mais cette angoisse, faut la contenir. Il faut lui trouver des côtés positifs. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, un bébé dans le ventre de sa mère qui nous supplie, je ne veux pas sortir. On va tous être...
C'est vrai qu'il a mal, il a du mal à sortir, le bébé, on le voit bien. Et puis quand il sort, il est tout crispé et puis dans un cri, hein, il hurle. Enfin, il a pas l'air content, en tout cas. Il est tout crispé, il a pas l'air content, hein. Alors qu'une personne qui décède, eh bien, souvent, cette personne, même malgré la maladie, malgré la souffrance, eh bien, souvent, il y a comme un petit rictus. Alors, je sais pas si c'est psychologique, c'est nous qui voyons ça. Mais comme elle a l'air reposée, quoi, tu vois. On part plus reposé que quand on vient au monde. Ça, tu as raison.
Le bébé, quand il vient, il pleure. Et la famille sourit, on fait des photos. Qu'il est beau, qu'il est mignon, il a tourné, etc. Et quand la personne meurt, c'est le contraire. Comme tu viens de dire, on espère que lui, il rit, il sourit, il est apaisé. Et c'est la famille qui pleure.
Ah, oh, j'adore, c'est la vérité.
Mais c'est la vie qui est comme ça. Hein. Et imaginons un instant le nombre de gens qui sont venus avant nous.
Ben oui. On peut pas les.
Ça fait quand même un paquet de monde. Hein.
Ah ben on peut pas les compter. Hein, c'est.
Oh là, tu te rends compte que t'es un.
C'est ce que je me dis. Je me dis si paradis il y a ou enfer. Eh bien dis donc ils sont surpeuplés. C'est pire que. Ils sont partis où tout ça. Mais bon tu me diras. Rabbi Subhanahu dans toute sa splendeur et dans toute sa force a dû prévoir tout ça en tout cas. Et ça je veux bien le croire. Mourad, je vais devoir te laisser parce qu'on a la pause, on me fait de grands gestes. En tout cas, c'était très agréable d'échanger avec toi.
Moi de même.
Je t'embrasse. Bonne soirée. À bientôt, Mourad. Merci encore. Au revoir. Eh bien, voilà une entrée, en tout cas, un préambule des plus positifs pour parler d'un sujet des plus anxiogènes, je dirais, de la mort. Eh bien, moi, je suis très contente de l'avoir commencé avec notre ami Mourad, parce qu'il l'a vraiment bien abordé. Il a été vraiment juste magnifique, puisqu'il en a parlé avec, sur un ton très, je disais, philosophique, mais très poétique en même temps, et rassurant. Voilà, on y va, et j'attends en tous les cas de vos témoignages et de vos avis concernant le sujet de ce soir, comment surmonter la peur de la mort. 01 53 48 3000, on va marquer une courte pause, à tout de suite.
La libre antenne de Vanessa revient dans un instant. Jusqu'à minuit. C'est la libre antenne de Vanessa sur Beurre FM.
Et l'antenne est ramollo. Non, ça va pas du tout côté standard. Allez, on se réveille, d'accord. Venez, je veux voir le standard, comme d'habitude, et bien plein de vos appels. Alors, donc, le sujet que je vous propose ce soir, c'est comment surmonter la peur de la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort ou pas du tout ou, voilà, venez l'aborder comme on l'a fait juste avant, sans pour autant être dans l'anxiété. Sinon, ma foi, vous pouvez parler d'autre chose. Hein, vous n'êtes pas tenu à aborder le sujet tel que je vous le présente. Non, vous pouvez parler de quelque chose qui vous tient à cœur, nous faire partager votre histoire, une histoire qui vous pèse en ce moment, hein, qui est un peu trop lourde à porter. Voilà, on va essayer de vous soulager, hein, de vous aider dans ce fardeau, à vous l'enlever un petit peu. Voilà, et puis peut-être à vous donner quelques conseils. Alors, venez parler de quelque chose qui vous tient à cœur, personnellement, ou qui relate de l'actualité, pourquoi pas. Allez, 01 53 48 3000. En attendant, on va écouter Haninou, Jiboulé Docteur. Allez, bonne écoute.
Yeah. wesh, Ritiel et Jouesh. Why, 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 why. بين وجهه وفرنسا واي 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 شموت حبيبتي شغموت واي 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 وباشا باشا لا ترسى ايفون واي 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 جيبوا لي دكتور يداوي لي مون كور راني طايح لوب جيبوا لي مافلور Retail is Jewish. Why, 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 why?
Un sujet à évoquer, une question à poser, vous avez la parole au 01 53 48 3000.
Et ce soir, dans la Libre Antenne, nous abordons un sujet incontournable, hein, puisque de toute façon, nous sommes tous concernés. Voilà, tout être vivant, comment surmonter la peur de la mort. Eh bien, il y a une personne qui s'appelle Lisiane Panini, hein, qui est psychothérapeute et psychanalyste. Alors, c'est une femme qui accompagne les personnes en fin de vie ou des personnes dans leur deuil également. Voilà, et qui a dit ceci. Partant du principe que l'on ne peut pas prendre la vie sans prendre la mort, puisqu'elle en fait partie, avoir peur de la mort est donc associé à la peur de la vie. Ah, c'est pas faux tout ça. Allez, on va tout de suite aller du côté du standard et accueillir Fatima qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Fatima de Toulouse. Bonsoir Fatima.
Allô?
Oui, bonsoir, bienvenue Fatima.
Bonsoir, je vous appelle pour comment vous allez?
Ah ben je veux bien, merci, c'est gentil. Sinon, sinon Fatima, concernant notre thème, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Est-ce que toi t'as peur de la mort?
Oui.
T'as peur de la mort?
Oui.
Qu'est-ce qui te fait peur dans la mort?
Parce que j'ai pas peur de la mort, j'ai peur qu'est-ce que je vais trouver après. Après, je perds pas parce que je vais mourir. J'ai peur de
l'inconnu, c'est ça.
Oh, oui.
De l'inconnu.
Oui. Oui. Avant, non. Je n'ai jamais peur de la mort depuis que je suis malade.
Depuis que?
Depuis que je suis malade. Et je vous ai dit, j'ai parlé un jour avec vous et je vous ai dit que j'ai attrapé un cancer.
D'accord, je me souviens plus vraiment. Et donc ça va là maintenant?
Oui, un cancer du sein. Je prends des médicaments maintenant.
D'accord.
Je suis
en remise. Ah, ok.
Oui.
Bon.
Avant, non. Mais maintenant, si, j'ai peur de la mort. J'ai peur beaucoup.
Depuis la maladie?
Oui, depuis la maladie, je pense. Je dis, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Qu'est-ce que j'ai peur.
La peur de l'inconnu, finalement?
Oui, oui, c'est ça.
C'est ça. De pas savoir.
Oui.
Comme le dis, c'est de pas savoir ce qui va se passer après, comme le disait Mourad.
Oui, c'est ça. Hein,
c'est l'inconnu qui fait peur.
Oui, c'est ça. Ma mère, elle perd beaucoup, beaucoup de la mort. Ma mère, quand elle entend quelqu'un qui est mort dans la famille, elle sauve. Hein.
Elle s'en va.
Oui, elle sauve, elle veut pas entendre. Elle veut pas. Quand il meurt quelqu'un dans la famille, il faut pas lui dire.
D'accord. Ah oui, carrément, ça va jusque là.
Oui, il faut pas.
C'est
il faut
anxiogène.
Pas qu'on lui dise que l'autre il est mort, quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va loin là, ça. Oui, oui.
Oui, mais moi, j'ai pas peur de la mort. Comme on dit, il viendra le jour qu'on meurt.
Non, sûr. Mais on le sait qu'il viendra le jour, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup qui ont peur quand même. C'est ça.
Oui, c'est sûr. Ah,
voilà.
Oui, et je téléphone à propos de. Je veux bien soutenir Inès qui a téléphoné hier.
Inès.
Oui, qui a dit qu'elle est enceinte et c'est pas...
Ah oui, notre amie Inès, il dit hier, oui, effectivement.
Oui, je soutiens beaucoup cette fille.
Oui, on la soutient,
si elle m'entend, ne fait jamais cette chose de bon, avortement, c'est
enfin,
pas bien.
Non, on peut pas lui dire ne fais pas, c'est pas bien. Non, on n'a pas le droit de donner ce genre de conseils, chacun a sa conscience. Par contre, elle a pas envie. Oui. Elle a envie de garder ce bébé.
Oui, c'est ça.
Et sa mère et toute sa famille, justement, la pousse à aller avorter. Ça, par contre, c'est pas bien. Dans ce sens-là, je pense qu'on n'a pas le droit de pousser les gens à avorter. Si les gens ont envie de garder leur bébé, ils gardent leur bébé.
Déjà,
voilà.
C'est haram.
Voilà. Non, mais c'est pas une question de haram. Ça va au-delà. C'est une question de conscience personnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que on dit haram aux gens, etc., on n'a pas le droit de culpabiliser les gens. Il y a beaucoup de femmes qui ont avorté parce qu'elles étaient obligées d'avorter. On va pas leur dire c'est haram. Non, elles ont avorté, elles avaient leur raison, classe. Mais par contre, ce qui n'est pas bien, c'est les personnes qui poussent les autres à avorter, comme là, en l'occurrence, hier. C'est vrai que c'était choquant de savoir que sa propre mère, ses tantes, ses cousines, ses sœurs, tout le monde l'a poussé, mais vraiment violemment, à aller avorter. Alors ça, c'est pas bien du tout.
C'est ça que j'ai pas aimé, moi.
Voilà, c'est ça qui est pas bien. Mais lui dire, non, faut pas que t'avortes, c'est haram. Non, non, on n'en est pas là. Il faut vraiment dépasser ce haram et tout. Parce que ce haram, il nous a pollué la vie. Donc maintenant, on n'en est plus haram, halal. C'est fini tout ça. Il faut qu'on change notre langage. Moi, pour moi, chacun sa conscience. Il faut que les cœurs soient apaisés, que les gens vivent tranquilles, vraiment dans leur tête, sans qu'on les charge davantage. Vivre, c'est très difficile déjà. La vie, elle est dure.
Oui.
Alors donc si on nous dit à chaque fois oui mais ça tu sais que c'est pas bien haram et tout, Aïma, c'est nous charger encore plus de fardeau. Donc on va laisser les gens vivre tranquilles, apaisés. Il y a rien de haram, vous faites pas de mal, vous tuez pas, il y a rien. Mais il est vrai qu'hier, d'après son témoignage, là on peut la soutenir dans sa démarche et lui dire on est de tout cœur avec toi et c'est à toi que revient le choix. Si elle voulait avorter, c'était à elle de le faire. Voilà, elle avait le choix. Elle a le choix encore d'ailleurs. Hein. Maintenant, elle a pas envie de le faire parce que ça lui pèse beaucoup sur sa conscience. Elle a dit qu'elle sentait ce bébé dans son ventre et qu'elle a envie de le garder. Eh bien, elle a raison, elle le garde, c'est tout. Mais c'est pas bien de la part des parents, quoi, de la famille.
Oui, c'est ça qui m'a.
Voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Ça, c'est pas bien parce qu'on n'a pas le droit de. Tu sais, on n'a pas le droit de choisir à la place des gens. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Oui.
Mais dans l'autre sens, c'est valable aussi. Hein. Quand une femme, elle veut avorter, elle a ses raisons, on n'a pas le droit d'aller la trouver en lui disant « Non, ne fais pas, c'est haram. » C'est rajouter d'abord du poids à sa souffrance. Il y a des femmes, elles n'ont pas le choix que d'avorter. Alors, c'est rajouter du poids à leur souffrance. En plus, on les culpabilise. Et en plus, ce bébé qui va venir au monde, il ne va pas être attendu. Je ne parle pas d'elle, hein, mais des autres. Il ne va pas être attendu. Et ce bébé-là, il va être une charge, un poids, et pour elle, il va se sentir mal dans cette société, et ça va être une future victime. Alors à partir du moment où une femme, elle veut avorter, elle a ses raisons, on n'a pas le droit de lui dire ne le fais pas, parce que c'est pas nous qui allons élever ce bébé, hein, et cet enfant, parce que c'est une condamnation à vie après, hein, un enfant. C'est à vie, on est parents à vie. Donc moi, une femme qui me dit je veux avorter parce que j'ai mes raisons, je lui dis grand bien te fasse, je suis de tout cœur avec toi. Si tu as besoin de mon soutien, je suis là. Jamais je lui dirais, ah non, ne fais pas ça, c'est haram. Non, ce serait absurde de ma part de dire ça, parce que c'est elle qui va porter le poids de ce bébé toute sa vie. Et peut-être que ce bébé ne va pas venir dans de bonnes conditions. Mesquine, ça va être une victime. Et moi, juste parce que j'ai trouvé que c'était haram. Voilà, j'ai donné un avis, c'est n'importe quoi. Non. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais donner son avis pour des sujets aussi délicats. Kul wahed qalak mihsb jamara ghir li mshi aliha.
Rêve même chez comme on dit. Je téléphone aussi pour soutenir de Karim qui parle de son père, il est mort.
Oui, notre
Karim. Je présente des condoléances.
Oui.
Oui, je vous aime bien, Vanessa. Je t'écoute chaque soir.
Oh, t'es un amour. Merci.
Oui, merci. Je vois que, comme on dit, Tichnina bzef, j'aime bien ça en toi.
Issel, mec, c'est très gentil.
Je
vraiment.
Sens que tu es vraiment Tichnina.
Oui,
et moi, j'aime bien ce genre de gens.
C'est vrai, c'est gentil. Vraiment, je suis touchée de ce que tu me dis. Vraiment. Inch'Allah, Rabbi jib shifa, et je te souhaite vraiment la santé avant tout.
Parce que je suis malade.
Inch'Allah, shifa, vraiment. Il faut garder le moral, Fatima. Il faut garder le moral.
Oui.
Hein, il faut garder le moral.
Je vous embrasse. J'embrasse aussi Jérémy. Et bonne soirée.
Merci beaucoup. Voilà, il te dit bisous.
Allez, au revoir.
Porte-toi bien, Fatima, puis reviens donner des nouvelles, d'accord?
Inch'Allah.
Allez, kun khair, Inch'Allah. À bientôt, je t'embrasse. Salama. Au revoir.
Salama.
Voilà, et puis je souhaite vraiment un prompt rétablissement à toutes les personnes qui sont malades. Rabbi jibkum shifa. Il ne faut pas avoir peur de la maladie. La maladie, ce n'est pas ce qui tue toujours. Hein. Bon, ça arrive, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des personnes qui sont condamnées et elles se remettent sur pied. Miracle, les miracles existent, faut y croire, voilà. Et puis, il y a des personnes qui étaient en très bonne santé, hélas, elles ont croisé dans leur vie ou une mauvaise personne, voilà, un mauvais... Et surtout, un accident de la vie, parce qu'on n'est pas à l'abri d'aléas non plus, hein, voilà. Donc, tout est possible. Et oui, il y a des personnes, regardez ce qui s'est passé ces dernières années, des gens en bonne santé qui sont sortis, que ce soit au Bataclan ou ailleurs, qui sont sortis vraiment pour s'amuser, pour se changer les idées en fin de semaine, qui étaient pleins de projets de vie. Et les pauvres, les mauvaises rencontres, hein, voilà, la mort les attendait. Alors, comme quoi, dans la vie, eh bien, c'est pas la maladie qui tue toujours. Des fois, la bêtise tue beaucoup plus que la maladie et les accidents, parce qu'il faut faire attention, voilà. Il faut faire très attention quand on prend, par exemple, le volant, parce qu'on est responsable non seulement de sa vie à soi, mais la vie des autres. Parce qu'il y a des personnes qui ont emporté beaucoup de vie, hein, en faisant des accidents sur la route, alors donc avec l'alcool et tout ce qui s'ensuit. Voilà, allez, 01-53-48-3000, on va marquer une petite pause et on revient avec vos appels. À tout de suite.
La libre antenne de Vanessa revient dans un instant. Un sujet à évoquer, une question à poser, vous avez la parole au 01 53 48 3000.
Oui, 01 53 48 3000, on est toujours là ensemble jusqu'à minuit. Et on va du côté de Paris, hein, on va rester à Paris, et c'est Nadia que nous accueillons. Bonsoir Nadia.
Bonsoir à vous et à vos auditeurs.
Merci, bienvenue à vous ou à toi. Je ne sais pas si on se tutoie, ce serait peut-être plus sympa, mais à toi de voir.
Bien sûr, ça me fera beaucoup plaisir.
Très bien, bienvenue et alors.
Je t'enverrai un petit mot. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, c'est un sujet auquel je pensais souvent, moi, la mort, parce que très tôt, j'ai été confrontée à la mort. Et donc, je n'ai jamais pensé avec angoisse à ma propre mort. Jamais, parce que je me dis que quand on est, on n'existait pas avant de naître, avant d'arriver au monde.
Oui.
Alors, et quand on disparaît, ben, ce sera pareil. Je n'existais pas. Donc, je n'avais pas de souffrance avant d'exister. Pourquoi en aurais-je après? D'abord, mais ce qui est très, mais ce qui est dans, de toute façon, toutes les civilisations ont leur rite pour la mort. Elles installent des rites. Donc, dès que l'homme a eu conscience de sa finitude, il a commencé à installer des rites. On a tous les archéologues en montrent. Et puis, à chaque civilisation, elle voit la mort à sa manière. Par exemple, les hindous, ils se font incinérer. Alors que personnellement, Moi, j'ai assisté à des incinérations et ça m'a paru terrible de voir une personne, même morte, être dite en cendres. Mais parce que je viens d'une autre culture, je pense que si j'étais hindou, ça m'aurait absolument pas choquée.
C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai que la vision de cette d'un être humain qui est réduit soudainement en cendres peut bouleverser, peut choquer. Ça nous choque parce que ça fait pas partie de nos, nos cultures, de nos voilà.
Il y en a qui reviennent avec l'urne sous le bras, en plus en l'installant sur la commode.
Oui.
Je sais pas, moi ça me choque. Et puis je me rappelle que Guy Bedos avait dit un jour, si je meurs, je ne veux pas être enterré, je ne veux pas être incinéré, alors que mes enfants se démerdent.
Ah ben dis donc, oh la charge, sympa lui. Comment faire? Ben voilà, on va le. Alors c'est cryonisé, je crois, je sais plus.
Je sais pas.
Quand on congèle.
Oui, je sais pas. Non, il a pas donné de consigne. Il dit qu'il se démerde parce que lui-même ne le sait pas.
Ah ben voilà.
C'est qu'il voulait pas être mangé par les esticots et être dans un trou.
Ouais.
Et il voulait pas brûler. Alors, il dit,
oui, c'est pour ça. Il reste plus que la cryo, je sais plus quoi. Enfin, les gens qu'on met dans de la glace, quoi. Il reste plus que ça.
Puis vous parliez de cimetière marin. Je trouve que c'est les plus beaux. Oh, d'ailleurs, oui. Brassens le chante.
Ah bon?
Il disait que je veux être enterrée en face de la mer à 7.
Ah oui.
Donc, on a beaucoup de cimetières marins et je trouve que c'est les plus apaisants, les plus beaux. Pas ceux qui sont dans les centres-villes où on entasse les gens, il n'y a pas d'allée pour passer, etc. On est obligé de faire du slalom entre les tombes pour aller se recueillir sur celle de ses proches, d'une part. Et d'autre part, pour le problème de la mort, c'est surtout pour le mort, une fois qu'il est mort. Ils sont fous, c'est les vivants, ceux qui restent, ceux qu'il aimait. Et je pense que les rites ont été faits pour apaiser ceux qui restent.
Ceux qui restent, oui, c'est ça.
Et pour sacraliser. Et puis vraiment, il faut dire aux gens très tôt qu'il y a une finitude, ça leur ferait apprécier mieux la vie.
Oui.
Parce que si on sait qu'on va mourir, on profite. Et de toute façon, on ne sait pas pourquoi on est là. Mmh. Et il y a un chanteur très... Je pense que tu le connais, Abdel Wahab, l'Égyptien.
Oui, bien sûr.
Il a fait une chanson magnifique. Et elle dit... C'est-à-dire, on est venu pourquoi. Et alors, je me rappelle qu'il y avait une campagne des islamistes contre lui terrible, parce que eux, on est venus, parce que Dieu a voulu, parce que ceci, parce que cela. Et il a une campagne, et je pense qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore très. Ils n'étaient pas en force comme aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il lui avait réservé s'il avait chanté cette chanson maintenant. Oui. Et puis, les rites sont faits pour accompagner. Mais comme le disaient vos auditeurs et toi-même, je veux dire que avant la mort, on mettait les draps. Enfin, en France, la mort, on l'occulte complètement.
De plus en plus.
Et je me rappelle, j'avais lu un livre aussi de Patrick Sébastien qui disait « Les joyeux vivent plus longtemps ». Et il était complètement choqué parce que lui, il était très... Il fusionnait avec sa mère. Et sa mère est morte et il l'appelle maman. Au lieu de dire maman, il dit mamanque.
Mamanque, ah, c'est bon.
Il l'appelle mamanque.
Ouais.
Et il est allé un jour pour une tante à lui, pour son enterrement. Ils ont fait ça à l'église. Il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait rien. Il y a des civils qui viennent pour justement accompagner, oui. Pour faire l'office. Mais enfin, ils sont venus en Bermuda, claquettes.
Ah, oui.
Ils ont fait 2-3 trucs et puis ils sont passés 2 fois pour faire la quête. Et il était horrifié. Il l'a écrit dans son livre, dans ce livre-là. Et en France, il vaut mieux cacher quand on a un mort, quand on a perdu quelqu'un, que de le dire parce que ils pensent que c'est contagieux ou je ne sais pas. C'est très très difficile d'avoir de la sympathie quand on perd quelqu'un. Elle est effrayante. La cérémonie est réduite au maximum. C'est presque les pompes funèbres qui s'en occupent. Et puis après métier, on va casser le capacitaire. Et puis même en Afrique du Nord, le rite se perd de plus en plus. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, quand il y avait un mort, il y avait tout le monde était là, les voisins, etc. Et maintenant, et ça donne dans un certain milieu, on vient par exemple pour le Farq ou l'Algaron le 40e jour, mais habillé comme si on allait à un mariage.
Ah bon ? Ah ben d'accord.
Ah oui, mise en pli, le coiffeur.
Ah bon ? Ah ouais ?
Oui, ça, dans la haute société, dans la... on vient, alors ça me choque beaucoup aussi. Moi, je n'arrive pas à manger, hein, pour les plats. Quand il y a mort, je n'arrive pas à manger.
Oui.
C'est-à-dire, ils font des plats, etc.
Ils font des plats et tout.
Oui, ah, et moi, je vois les gens, mais complètement courir pour s'empiffrer, mais d'une manière incroyable. Et je pense, mais ah, il reste quand même... que bon, il reste quand même le fait qu'il y a encore les rites des trois jours, et je pense que ces rites-là, oui, c'est pour aider au passage de la famille et des proches, les oui, aider pour accepter, pour digérer cette mort.
Oui. Et les accompagner dans leur deuil aussi. Hein.
Oui,
parce que c'est pas évident d'être seul.
C'est-à-dire que, bon voilà, il y a tout un... Il se fait de moins en moins, mm-hmm, d'abord. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne font plus le 40e jour.
Ah oui.
Alors qu'on le faisait, on faisait le 40e jour, on mm-hmm, faisait le... quand l'année se terminait.
L'âme, oui, l'année, l'âme. Oui.
On faisait l'arbaïn, on faisait la slâme.
Enfin, moi, maintenant, chez moi, on le fait toujours, hein, mais bon.
Non, à Tunis, ça se perd.
Ah oui, là, d'accord.
D'abord, pour plusieurs, les gens sont géographiquement de plus en plus éparpillés.
Oui, oui.
Donc, c'est difficile de les réunir.
Oui, c'est vrai.
Et puis, d'autre part, la vie coûte très cher. Mm-hmm. Donc, faire plus, ça coûte. Un enterrement, ça coûte. Et ramener plein de gens, les faire bouffer, alors que les gens souffrent beaucoup pour la cherté de la vie. Mmh. Et puis, je pense que sa propre mort, on ne sait pas. De toute façon, savoir ou ne pas savoir, je ne savais pas avant de naître. Et quand je partirai, je verrai bien. Je n'ai pas m'empoisonner la vie, à savoir ce qui se passe après. Alors bon, il y en a qui ont du prêt-à-penser. On va rentrer, on va se réunir, il y aura Azeb al-Qabr, il y aura je ne sais pas quoi, il y aura je ne sais pas quoi.
Ouais,
et elle se prête à penser là, moi je j'aime pas trop. Il y a des gens des fois qui viennent pour vous voir, moi je préfère ne pas les voir parce que ce qu'ils me disent ne m'apaise pas.
Oui, parce qu'il y a un manque de psychologie aussi en même temps. Hein, parce que
parce qu'ils sont, dans leur... Ils ont le prêt-à-penser.
Oui, le prêt-à-penser, oui, justement, où il n'y a pas la psychologie. Il y a vraiment... C'est brut de pomme, je dirais. Hein, c'est carrément...
Oui, voilà. Il va aller au paradis, il va aller comme s'il avait le pitus pour le paradis. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour supposer qu'il y a 10 milliards de gens qui vont se retrouver. Quand on voit les os et les squelettes, on ne voit pas la chair. Moi, je pense que peut-être il y a une âme à la limite.
Mm-hmm. Ben oui.
On va se réunir. Ils parlent comme si on allait se réunir dans un salon et qu'on a apporté des meubles, quoi.
Moi, je pense que les rites, parce que les rites, c'est culturel, mais c'est propre à chaque culture.
Oui,
il y a des choses qui se rejoignent, hein, par exemple, qui sont universelles. Par exemple, la toilette du mort. La toilette du mort, oui, on peut être un Indien, je ne sais pas, un papou. On peut être. C'est valable chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens, chez tout ce que tu veux.
Oui, il y a la toilette.
La toilette mortuaire, elle est quasiment universelle.
La prière aussi, sur la prière.
La prière. Et surtout la toilette, parce que la toilette, eh bien, chez les athées, elle existe. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a c'est des égards qu'on a envers le défunt. Une forme de respect, une dernière fois. C'est une manière aussi de le retenir jusqu'au bout.
C'est du sacré, c'est une espèce de forme de sacré. Et puis, il y a des gens qui croient, par exemple, au karma. Ils croient qu'on se réincarne.
Ah oui, ça, c'est les bouddhistes, animal, les hindouistes.
Dans un truc comme ça. Mm-hmm. Et qu'on a plusieurs karmas, en fait. On a plusieurs vies. Et on a plusieurs vies pour aller vers la perfection. Et puis, il doit y avoir d'autres rites aussi chez les Amérindiens, en Amazonie, etc. Chez les Africains aussi. Mmh. Il y a avant qu'ils ne se convertissent, certains se convertissent. Le mort faisait partie des vivants. C'est-à-dire que les vivants et les morts vivaient ensemble.
Oui, et puis ces rites sont là pour une chose, c'est ça sécurise, ça les vivants, hein, ça réconforte, ça oui. guérit aussi les vivants, ceux qui restent.
Mais même ceux qui veulent, même si on ne le fait pas ce rite-là, on vit avec nos morts.
Oui, mais bien sûr, mais Nadia, ces rites-là, ils ont leur raison d'être. Moi, c'est ce que j'imagine, parce que je me dis ces rites-là, eh bien, durant les jours où on les applique avec tout un entourage, eh bien, ça apaise et ça nous aide à avancer. Alors qu'il y a des personnes qui meurent subitement, par exemple en mer, etc. Regardez par exemple les enfants, etc. Je te reprends juste après, Nadia. Tu veux bien ? À tout de suite.
Oui.
La libre antenne de Vanessa revient dans un instant. Beurre FM, à Aix-en-Provence, sur le 92.6.
تخليفي كرما دي بعد سكين والحياة في العين بقاي ولا مات معاك القلب ما كان زين يكفيني مبون يكفيني مكتوم جري لسان نقول كلام به ملا ديوان وكلامي ماشي فاني فاني كل ما جاني يوم جاني اللي فيه منقول وكلامي ماشي فاني فاني
Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Vanessa sur Beurre FM.
Oui, on va reprendre avec Nadia avant la pause musicale. Oui, je disais Nadia, c'est très difficile de faire son deuil.
Non, et puis la mort, de toute façon, elle ne donne pas de rendez-vous. On ne sait pas quand.
Ah oui, mais c'est...
Elle surprend toujours. On n'est jamais prêt à attendre quand quand on vous annonce la mort de quelqu'un, on n'est jamais prêt.
Ah non, bien sûr, même si la personne a été très malade. Mais ce que je disais tout à l'heure, tu vois, les rites servent à une chose et en même temps, on a besoin aussi de toucher, de laver le mort, de lui rendre un dernier hommage. Parce que regarde, si tu regardes bien, les deuils les plus difficiles à faire, c'est lesquels ? C'est les deuils sans dépouille. C'est par exemple les enfants disparus. Regarde les enfants disparus, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Ben souvent, eh bien, on choisit des sites, par exemple devant les grilles d'une école que fraquentait l'enfant, un jardin, peu importe l'endroit, où on dépose des objets tels que des jouets, des poupées, des nounours, des fleurs, tu vois.
C'est les plus horribles.
Voilà.
Ce sont les morts les plus horribles, pas pour celui qui est mort.
Mais non, parce qu'on n'a pas de dépouille. On n'a pas de dépouille, on n'a pas de lieu de sépulture. Donc c'est pour revenir à ce que tu disais par rapport au rite. Les rites, eh bien, voilà. On va jusqu'au bout, on l'accompagne, on le touche, on le lave, on le fait beau. Et puis, bon, il y a des, ça dépend des cultures. Hein, chez les musulmans, c'est une chose. Chez les chrétiens, moi, j'ai des amis, par exemple, chrétiens qui sont décédés. Eh bien, on leur met leurs plus beaux atours, la plus belle robe, le plus beau costume.
On a l'impression qu'ils sont vivants.
Mais oui, et nous, bon, c'est dans un linceul, mais néanmoins, on les parfume avec du musc, on met le henna, on va jusqu'au bout avec eux, mais ça nous aide à faire le travail, le chemin du deuil. Alors qu'une personne qu'on ne retrouve pas, il n'y a pas de dépouille, eh bien, dans l'inconscient, eh bien, pour vraiment trouver le chemin quand même de l'apaisement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on trouve un lieu, comme je te disais tout à l'heure, devant la grille d'une école que fréquentait l'enfant, ou devant, je ne sais pas, une place publique, si c'est un adulte, etc. Et on dépose quelque chose, un objet, parce qu'on a besoin de matérialiser la mort. Et de, voilà. Si on ne la maîtrise pas, on ne la maîtrise pas, mais on la matérialise.
Voilà, un lieu de recueillement.
Mais oui.
On a besoin de ce lieu de recueillement. Et qu'est-ce que je veux dire ? Moi, je viens de perdre un frère le 14 janvier.
Ah, l'Ayahmous, allez.
Et c'est quelque chose de terrible. Mais bon, j'ai tellement accompagné de proches morts. Ça ne veut pas dire que je crois que je suis encore en état de... Et donc, je l'assimile par la lecture énormément.
Oui.
J'essaie de... Puis j'ai beaucoup d'amis qui téléphonent, etc., qui essayent de me remonter le moral.
C'est important.
Je m'y attendais pas, elle n'était pas attendue du tout. Elle est venue subitement.
Oh là là.
Et je commence bien l'année, quoi. Mais enfin, bon.
Toutes mes condoléances, Nadia, de tout cœur avec toi, Arbi Djibsbar, vraiment.
Et c'était vraiment, c'était ma raison de vivre avec mes frères et moi. On avait une relation, mais j'avais deux frères et ils sont partis tous les deux. C'est le deuxième, donc c'est le dernier qui part. J'avais une relation complètement fusionnelle. J'étais l'aînée, je les aimais beaucoup.
Oui.
Ils étaient très cultivés, très, très instruits. Et vraiment, on s'entendait intellectuellement, on s'entendait sur beaucoup de choses.
Oui.
Je les protégeais, etc. Parce que ma mère aussi est décédée brutalement. Donc, c'est très... Elle est décédée de chagrin pour son fils qui était mort.
J'imagine.
Donc, c'était très difficile. Et à la limite, c'était... Bon, je n'avais pas envie de la perdre, mais c'était un soulagement pour elle parce qu'elle souffrait tellement.
Tellement, oui.
Que des fois, c'est très difficile parce qu'on est égoïste quand on veut les retenir.
C'est vrai, complètement, c'est vrai. C'est
on
vrai.
Veut qu'ils soient... Moi, j'étais folle quand j'ai perdu ma mère. C'est devenu folle, mais j'ai perdu... J'en étais presque à perdre la raison, et surtout qu'elle n'est pas morte, pas très vieille, quoi.
Ah, oui.
Et pas vieille du tout. Et en réfléchissant après, quelques temps, je me disais que c'est un soulagement pour elle, parce que cette femme était devenue complètement la souffrance, une souffrance. Elle était là. Et donc, quand elle est morte, mais elle disait toujours, par contre, et elle a eu la mort qu'elle voulait, finalement, elle disait, ce que je n'aime pas, c'est devenir, vous savez, devenir à légumes, etc.
Oui, impotente, oui, je comprends.
Elle priait toujours, elle disait,
ah là là,
Et elle est morte en faisant, elle a fait le repas, et puis elle a un AVC juste après, et elle est morte sans avoir souffert, sans rien. Mais par contre, il y a toute une, comment ça s'appelle, toute une industrie autour de la mort qui me déplaît énormément. Vous savez, avant les Al-Qurra, quand ils venaient pour citer le Coran, etc., ils venaient. Moi, je me rappelle que pour mon premier frère, quand ils étaient venus, ils étaient en train de négocier le contrat. C'est-à-dire, c'est comme si on avait ramené un orchestre et qu'on négocie pour un mariage, combien tu veux, pour chanter, etc.
C'est où ça ? C'est quoi ? Je comprends pas.
À Tunis, c'était.
Ah bon ?
Oui.
Comment ils négocient ? Qui négocie ? J'ai pas compris.
Bah, on va chercher dans une mosquée. Je me rappelle, un de mes beaux-frères est allé chercher les... Parce que nous, on était un peu ramolo. Donc mon beau-frère est allé chercher dans une des mosquées.
Oui, des gens du Maha qui viennent faire Iqraou. Iqra, oui, c'est ce qu'il fait chez les musulmans. Et ça se paye, ça ?
Bien sûr, ils prennent un prix.
Moi,
j'étais tellement effarée que j'aurais préféré mettre une très belle cassette d'un très grand... de quelqu'un qui récite le Coran, que j'aime beaucoup, Abdelbastar de Samad, parce qu'il avait une voix extraordinaire. Il était aveugle, il chantait le Coran. Il salmodiait le Coran comme personne.
C'est incroyable,
Et j'aurais aimé préférer mettre ça que voir des mecs.
Je trouve ça vraiment très déplacé. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, parce qu'on en enterre toujours des siens, il n'y a pas encore très longtemps, on a enterré un oncle qui est décédé. Eh bien, dans la ville natale de ma famille, eh bien, je peux t'assurer que, justement, cette Jmara, ils se bousculent pour venir. C'est eux qui veulent venir, bien sûr, bénévolement. Alors ça, pas à l'idée de leur donner de l'argent, c'est pas possible. Ils se bousculent. Et ils viennent, et je peux t'assurer que toute la nuit, Hein. Toute la nuit, je me souviens, on avait fait tous le voyage, on est parti en Algérie pour ça. Alors nous, les femmes, on était dans une aile de la maison, et de l'autre côté, c'était les hommes, Iqraou,
oui,
et ça s'est bousculé pour venir. Il a jamais été question d'argent, jamais, jamais. Ils viennent, Iqraou, allez, toute la nuit, on les a entendus jusqu'à nous endormir, mais au grand jamais, ils sont payés.
Non, c'est une grande ville.
Je savais pas, ça, c'est
puis,
grave.
Ici, ils négocient.
Ouh là là.
Et ça donne la chair de poule. Moi, quand j'étais complètement... D'abord, j'étais ravagée, parce que mon frère est mort dans un accident. C'est un accident. Bon, il est mort à 36 ans.
Ouais.
Et c'était un accident. J'étais complètement... J'étais à 2h avec lui au téléphone, à 14h, il était à la morgue. Et donc, j'ai pris l'avion, je sais pas, il y a des amis qui m'ont emmené, bien sûr, prendre l'avion, je sais pas comment je suis arrivée. Et donc, je les voyais rentrer de négocier. J'étais complètement abrutie, des amis médecins m'ont mis sous anxiolytique, etc.
Mmh.
Mais quand même, je gardais ma lucidité de les voir comme ça négocier âprement. Nous, on leur donnait tout, ce qu'ils voulaient, quoi. Mais de les voir dès l'arrivée de la porte négocier.
Oh là là.
C'est incroyable. Les rites, pas dans les petits villages. Je pense que dans les petits villages, c'est très différent. Et dans les petites villes. Mais dans les grandes agglomérations, ça se déshumanise beaucoup.
Oh, quelle honte. On va aller très vite parce qu'on a la pause. En tout cas, merci Nadia pour ton témoignage. Et je suis tout cœur avec toi et toutes mes condoléances.
Vous savez, je suis comme tout le monde. Hein, tout le monde perd des affaires personnelles qu'on n'a pas étalées, si vous voulez.
Oui.
Et puis, sauf dans une discussion intime.
Mm-hmm.
Mais je pense qu'on doit toujours, toujours, toujours préparer les gens à ce que le passage de la vie, de toute façon, c'est pas la peine de penser à la mort, de passer sa vie à penser à la mort.
Mmh. C'est pas faux. Et tu sais que dans certaines cultures, justement, on parlait tout à l'heure de culture, de manger, etc. Par exemple, dans certains pays africains, hein, de sahariens, eh bien, le deuil apparaît comme une fête, hein, quelque part, puisque c'est la fête. Alors, ils mangent, ils dansent, ils boivent, les gens boivent, et ils s'habillent de leurs habits de fête. Et pour eux, eh bien, qu'est-ce qu'ils fêtent? La fête du voyage du fils ou de la fille. Enfin, dans l'autre monde, pour eux, c'est un voyage dans l'autre monde, ils l'aident à passer dans l'autre monde. Donc, dans la joie, tout le monde danse et tout.
Parce que l'esprit reste pour eux.
Voilà.
L'esprit est là dans le village et il va les protéger.
Ben oui, tu vois, comme quoi, les rites sont différents et c'est pas plus mal.
Ceci étant dit, j'en ai pas pressé de mourir non plus.
Non, on n'est pas pressé. Non. Ah non, c'est plus loin possible. Ah non.
Voilà.
En tout cas, merci.
Allez,
Nadia.
Très bonne soirée.
Également, je t'embrasse très fort, Nadia. À bientôt.
Vraiment, tu es une très belle personne.
Oh, t'es un amour.
Comme dirait même. Non, je parle de l'esprit. Que je ne sais pas comment il y a, mais il y a ton visage.
Ah oui.
Comment il dit déjà ça?
Que vous êtes agréable de votre visage.
Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu.
Si, la semaine dernière, mais on en redemande. Reviens, Méziane.
Ah,
il va peut-être revenir. Tu sais ce qu'il dit, Méziane, quand on aborde le sujet de la mort? Ah, il dit, il a peur. Oh là là, ouais. Il doit avoir beaucoup sur la conscience. Alors, tu sais quoi? Alors, je lui dis, mais Méziane, de toute façon, moi, toi, tous, nous y passerons. Alors, donc, pourquoi avoir peur comme ça? Alors, donc, il me dit, mais une peur transie, hein. Il me dit, à une condition. Je dis laquelle? Il dit alors que tout le monde meurt avec moi. Tout le monde part en même temps.
Nous, on a un proverbe comme ça pour ça. On dit « Shanka marajma akhlea ». Tu comprends ce que ça veut dire?
Non, mais...
« Shanka », c'est une pendaison.
Une pendaison. Ah, d'accord.
À la collective, c'est comme si... « Akhlea », c'est là, quand on va en vacances l'été.
Ah, d'accord.
Puisqu'on a le même sort.
Oui.
Quand un malheur est partagé par tout le monde, il ne devient plus un malheur.
Un malheur, voilà. Ben c'est ça, donc Méziane. Je comprends mieux. C'est tout à fait ça. Ah, je t'adore.
Allez,
Nadia, je t'embrasse très fort.
Bonne soirée.
À bientôt. Merci. Au revoir, Nadia. Très sympathique, notre amie Nadia, et une manière aussi encore d'aborder ce sujet avec beaucoup d'apaisement. Et puis bon, il n'y a pas l'once d'une peur. Hein, voilà, jusque-là, tant mieux. Alors, on va marquer une petite pause et on revient avec vos appels. À tout de suite. Ah oui, alors la pause, c'est avec Mohamed. Non, c'est pas ça?
Non,
c'est autre chose. C'est quoi alors?
Non, on peut rouler, vas-y. Tu peux
on
rouler,
peut continuer ça. Bon, allez, on roule. On continue. Allez, on va aller du côté de Boulogne avec Yahya. Il va nous dire, hein, Yahya, comment... Ce qu'il pense de la mort.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Yahya.
Oui. Ouais, on peut se tutoyer?
Oui, c'est mieux, c'est plus sympathique, ouais. Moi, le vouvoiement, j'arrive
cool,
pas.
Cool. Ouais. Bah écoute, déjà je voulais saluer l'intervention de Mourad, il me semble que c'était le premier.
Oui, Mourad.
Franchement, ouais, tout à fait, ouais. Franchement, je trouvais ça vachement intéressant ce qu'il disait. Je partage entièrement, parce que bon, voilà.
Oui.
Et moi en fait, je voulais un petit peu apporter une certaine, enfin une petite contribution, parce que en fait, moi je pratique la méditation de pleine conscience.
Ah.
Alors je tiens à préciser que c'est une méditation qui est complètement laïcisée. À la base qui est bien sûr spirituelle, mais en fait qui a été reprise quand même par de grands scientifiques, hein. Ils ont élaboré des protocoles en fait d'accompagnement de personnes justement qui souffrent en l'occurrence de grandes anxiétés, de dépression, etc. Moi, personnellement, je ne souffre pas de tout cela. Mais bon, voilà, ça ne veut pas dire que c'est réservé uniquement à ces gens-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, je pratique la pleine conscience depuis 5 ans maintenant, quasiment.
La méditation de la pleine conscience, c'est ça ?
Ouais.
C'est-à-dire être pleinement conscient du moment, quoi, présent.
Absolument. En fait, c'est franchement.
Et maîtriser ses émotions. C'est pas ça, un peu ?
Absolument.
D'accord. Alors, explique-nous un petit peu, comme ça, on va comprendre.
Alors, sans aucune prétention, parce que je suis pas un expert en la matière, mais bon, je vais essayer d'expliquer les choses à ma manière.
Oui.
Franchement, c'est ça. C'est vraiment vivre l'instant présent.
Oui.
Tel qu'il est, tel qu'il se présente, sans aucun jugement, vraiment aucun jugement. Concrètement, en fait, la pleine conscience peut nous accompagner, en fait, durant toute la journée, j'ai envie de dire, tous les jours, hein. Sachant qu'il y a des pratiques formelles, c'est-à-dire que, par exemple, tous les jours, se poser pendant, allez, disons, 10, 15, 20 minutes, tous les jours, rester avec son souffle, rester vraiment avec son souffle, la respiration, son inspiration, son expiration, laisser arriver les pensées telles qu'elles sont, et les laisser partir. Pourquoi c'est extrêmement intéressant comme pratique ? Parce qu'en fait, le sujet que tu abordes ce soir, justement, le sujet de la mort et la peur de la mort, en fait, comme tu disais, en fait, c'est le terme peur, parce que finalement, c'est une peur de l'inconnu. Et cette peur-là, elle est construite, je pense que tu es bien d'accord avec moi, par la pensée, par le mental. C'est-à-dire que c'est une construction purement mentale. C'est-à-dire que voilà, il y a une pensée qui a été construite et qui malheureusement nous fait partir, mais complètement de l'instant présent tel qu'il est. Alors, la pratique de la pleine conscience permet justement de vivre avec ses pensées tout en étant ancré. Ancré à quoi ? À l'instant présent, à travers la respiration. Alors, bon, la respiration est un moyen, mais aussi, par exemple, à travers les sensations du corps, à travers les bruits qui nous entourent. Donc, tout ce qui peut nous rattacher à l'instant présent, dès qu'il se présente, nous permet justement de se dissocier de ces pensées-là qui se présentent. Pensées, que ce soit positives ou négatives, dans le sens où ce sont des pensées, elles se présentent telles qu'elles sont, et laisser ces pensées se présenter. Parce que c'est ça, oui, en fait, l'enjeu. C'est parce que c'est quand on est embarqué dans ces pensées négatives, anxiogènes, et en fait, la réalité est tout à fait déformée. Alors, personnellement, tu sais, quelque part, je pense qu'on a tous un peu peur de la mort. C'est normal. Mais c'est aussi, ça fait partie aussi de la pratique, se dire, ok, ben voilà, ok, il y a une pensée qui me traverse l'esprit. Disons que si une pensée, ah ouais, j'ai peur que ma sœur que je chéris tellement, eh ben, oh, j'ai peur qu'elle meure parce qu'elle a encore des petits-enfants, ok. Et ça m'arrive, alors franchement, je te fais part des expériences, parce que finalement, c'est des expériences personnelles, ce que je suis en train de raconter. Et ben alors, à ce moment-là, je me dis, Yaya, t'es dans une pensée, ok, dans une pensée plutôt négative, ok, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas dans une pratique formelle, parce que comme je te disais, la pleine conscience, il y a la partie formelle, mais aussi, c'est un entraînement de chaque instant, du mieux qu'on peut en fait. Et bien là, je reviens à mon corps, je reviens à ma respiration, je reviens à la sensation, je reviens à ce que j'observe tout autour de moi, sans aucun jugement. En tout cas,
c'est ça. Moi, j'ai rencontré des gens, mais c'est formidable, excuse-moi, t'interromps, mais j'ai rencontré déjà des gens qui pratiquaient cette et qui ont bien avancé hein, dans cette approche. C'est vrai que ils ont une autre manière, ils ont un autre rythme de vie déjà. Hein, mais c'est très compliqué, c'est très difficile à la base au départ parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on est tellement chargé par justement par sa culture, par la religion, par plein de choses, par des croyances qu'on a emmagasinées depuis si longtemps. Parce que justement, cette méditation de pleine conscience, eh bien, pour qu'elle soit vraiment efficace, il faut vraiment se décharger et il faut se débarrasser de toutes ces croyances que nous véhiculons avec nous depuis toujours. Alors, donc, par exemple, préparer son esprit, tu vas arriver justement à préparer son esprit à ne pas laisser s'accrocher des pensées, comme tu disais, négatives ou des pensées qui viennent de ce qu'on nous a appris. Donc, observer, être dans l'observation, tu vois, seulement dans l'observation. Sans juger.
Absolument.
Mais c'est pas évident.
C'est
pas évident parce qu'il y a des réflexes.
Ouais.
C'est un travail.
Ouais.
Hein. C'est magnifique ce que tu dis là parce que moi je suis une adhérente de cette.
Oui. Mais tu sais quoi, parce que c'est vrai, parce que mine de rien, parce que comme je disais, maintenant sincèrement, je me dis que je pense vraiment, hein, vraiment en plus sans aucune prétention encore une fois, je dis que j'ai un petit recul justement suffisant et nécessaire qui me permet un petit peu justement d'en parler ce soir. Et je t'avoue que c'est la première fois que j'interviens dans une radio et ça me fait vraiment plaisir ce soir avec toi.
Merci.
Écoute, tu sais quoi, et c'est vrai que le début est extrêmement difficile parce que justement, tu sais quoi, c'est une pratique, c'est une manière d'être en fait qui nous ramène vers les choses qui sont enfouies en nous. Entre autres, justement,
ces peurs
de l'inconnu. Et je t'avoue qu'on traverse des moments parfois qui sont extrêmement difficiles, mais ça fait partie de l'expérience. Parce que justement, c'est ça l'expérience, l'expérience humaine dans toute sa splendeur. C'est-à-dire être confronté à tous ces moments qui sont aussi difficiles. Mais au bout du tunnel, c'est ça le plus intéressant. Vivre et traverser cette expérience, c'est tout l'enjeu. Et je te promets vraiment. Et je le dis, j'en parle autour de moi. Je suis formateur de profession. Je le fais avec les jeunes dans l'insertion professionnelle. D'autant plus que j'ai des jeunes. Super. Tu sais, c'est des jeunes qui sont en échec scolaire. C'est l'école à deuxième chance. Donc, c'est des jeunes. Je te promets. Et ça fait vraiment plaisir parce que bon, certes, c'est pas toujours évident. Mais je me dis que le mieux que je peux pour partager, d'autant plus, moi ce que je dis d'ailleurs, je tiens vraiment à préciser, comme je te disais, c'est purement laïque, ça n'a rien de religieux. Et moi juste, je me permets d'enchaîner ce que tu disais parce que c'est extrêmement important, parce que malheureusement je dis bien, moi j'ai beaucoup de respect pour ma religion, je suis de tradition.
Mais tu mélanges pas tout, moi, voilà c'est ça. C'est
absolument.
Ça c'est formidable,
moi,
formidable.
Je suis toujours halluciné en fait par, entre guillemets, les gens de ma culture, de ma tradition, qui voient tout sous le prisme de la religion musulmane. J'ai juste envie de leur dire, écoutez, mais il n'y a pas... Je comprends, je respecte, mais ouvrez les yeux. Je te donne un exemple très concret. Par exemple, autour de moi, j'en ai connu des gens, justement, qui avaient ce type de souffrance, c'est-à-dire les peurs, les toutes formes de peurs. Eh bien, tu sais, ah ouais, mais... oui, dites un drapé. Oui, mais est-ce que tu as pensé peut-être... Est-ce que tu as pensé l'emmener chez un psychiatre, psychologue pour une psychothérapie, justement, parce que les psychothérapeutes, maintenant, ils attendent ce genre de méthode, parce que elle est avérée maintenant, elle est extrêmement efficace. Toutes les revues les plus sérieuses mondiales parlent de ces pratiques-là, et y compris les psychiatres, maintenant, ils l'utilisent comme outil, justement, de soins et de guérison. Je me dis, ces gens-là, mais c'est hallucinant. C'est une anecdote, parce que là, du coup, je m'éparpille un petit peu. J'ai un livre que j'ai acheté qui est extrêmement, vachement intéressant, de Boris Cyrulnik, le dernier, là, qu'il a écrit. Psychothérapie de Dieu. Vachement, vachement intéressant, parce que le gars, c'est un neuropsychiatre. C'est vrai que le titre, il peut, voilà, on peut se poser des questions. Pourquoi ce titre, hein? Mais en fait, le mec, il a écrit ce livre, je te promets, mais en plus, il cite des exemples, il parle un petit peu de toutes les spiritualités, toutes les religions, le rapport entre les religions. Puis c'est un mec, bon, je pense que tu le connais, franchement, vraiment, pour moi, moi, c'est plus qu'un humaniste. Hein.
Boris Cyrulnik, c'est un de mes maîtres à penser. Alors donc, la résilience, c'est à travers lui que j'ai,
absolument, j'ai étudié tout ça. Oui. C'est des faits scientifiques, tu vois, vraiment.
Tout à fait.
C'est pas
tout
le mec qui rentre
et c'est
dans la
scientifique et du vécu. C'est un cheminement personnel vécu, hein, de par son histoire, avec la déportation, la mort de ses parents, etc., etc. Lui, petit garçon.
Ah voilà, c'est la résilience. Tu vois, le pote, que je respecte beaucoup. Tu vois, il a pris le livre qui est quelqu'un très pareil, voit les choses souvent sous le prisme de la religion musulmane. Il prend le livre, bon, il était chez moi, regarde le titre, il me dit ok, il me dit c'est quoi? Ben, j'ai dit, ben, si tu veux, tu peux lire un petit peu, peut-être t'auras un petit aperçu. Il me dit, ouais, mais Yaya, rien que le titre. Parce qu'à un moment, je sais pas, attends, je me souviens plus, franchement, j'ai un trou de mémoire. Un petit passage. Ah ben, pour lui, c'était déjà un blasphème.
Oh là là. Ben, tu vois, quand on part de ce principe, c'est même pas la peine. C'est pas la peine, l'esprit, il est obstrué, tu peux pas, c'est dommage.
Exactement,
hein.
Exactement, l'esprit est déjà obstrué, et je te promets que ça, c'est vraiment un petit...
Ouais, oui. C'est pour ça que quand tu parles à des gens comme ça, de justement de cette méditation, de pleine conscience, etc., et de toute cette philosophie autour, eh bien, c'est un langage que certains ne pourront pas comprendre. C'est pas accessible pour eux, parce que c'est ouvrir justement son champ de curiosité, de prévenance et de bienveillance.
Absolument, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça. Et je dis, en plus, moi, tu sais, quand je leur dis, maintenant, franchement, au départ, je te le dis, c'est pas, hein, c'est par discrétion, j'en parlais pas. Bon, je pratiquais dans mon petit coin, petit à petit, progressivement, mais maintenant, je peux en parler parce que, sincèrement, comme je dis, je fais part de mes expériences.
Mais il faut partager, oui, tu as raison.
Et je le partage, et je les partage. Et je dis toujours, attention, ça, c'est des expériences personnelles, je ne dis pas, mais en même temps, j'invite les autres. J'ai dit, surtout les gens qui sont, à mon avis, qui ne font pas de leurs soucis, de leurs souffrances. J'ai dit, tu sais quoi? Tu pourrais peut-être essayer, peut-être que ça pourrait marcher, mais malheureusement, c'est des gens, comme je te dis, particulièrement de ma culture, il y a cette barrière-là qui fait que, dehors que c'est de la méditation, ça sous-entend que c'est une forme de spiritualité, ça sous-entend du bouddhisme.
Ça, j'entends,
la non-croyance en Dieu. Mais je leur ai dit, mais vous savez quoi? Mais si vous pouviez seulement vous intéresser un peu plus, vous saurez que c'est pas du tout ça, quoi. Mais je trouve ça navrant.
Mais oui. La plus belle approche, justement, vers Dieu, vers la nature, vers la création, c'est quoi? Eh ben, c'est justement ouvrir son champ de bienveillance. C'est ouvrir son cœur. Et comment ouvrir son cœur? Eh bien, déjà par la méditation, parce que la méditation, celle que tu prônes, elle est vraiment magnifique, hein, pleine conscience. Elle dit bien ce qu'elle veut dire. Hein, c'est clair. Hein. Oui. Moi, j'en connais un petit peu. Mais je veux dire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, c'est remplir son cœur d'amour, sans jugement, sans juger l'autre. Être dans l'observation et aller vers l'autre, tendre la main. Alors, c'est dommage que les gens soient dans la fermeture. Alors, donc, il y a la religiosité et il y a la spiritualité, et ça, j'appuie toujours là-dessus. Alors, le choix, il est vite fait, hein, chez moi, entre les deux. La spiritualité, c'est vrai qu'elle y est, pour moi, c'est clair, et voilà. Mais la religiosité, c'est autre chose, et ça, ça, c'est de la fermeture d'esprit, c'est vraiment, quel dommage, mon Dieu. Et là, on s'éloigne justement de la création, complètement.
Ah, mais clairement. Mais tu sais quoi, en plus, sincèrement, je le dis, parce que vraiment, moi aussi, tu sais, en plus, d'autant plus que cette pratique qui est, comme je dis, à la base peut-être spirituelle, elle me rapproche davantage de mon Dieu, de mon Créateur.
Mais oui.
Mais pas de la même façon que ces gens-là.
Non.
Je ne les juge pas, mais je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas, que malheureusement, je ne sais pas, ça me questionne toujours. Ça me questionne parce que cette société-là, de ma culture, c'est-à-dire ces gens-là, je me dis, purée, mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est vraiment cette religion-là qui fait qu'ils s'enferment dans des dogmes et du coup, ils font pas le moindre effort d'ouverture et de bienveillance? Je me dis, mais
Mais c'est quoi ? Ça me questionne, franchement.
Mais tu entends d'ailleurs, Yahya, les personnes qui sont complètement dans une religiosité extrême, qui sont complètement fermées dans la religion, ces personnes, quand ils en parlent avec véhémence, tu vois, avec sur un temps très belliqueux, tu vois. Par exemple, moi, combien de fois je me suis fait rabrouer parce que, pour eux, pour certains, je tenais des propos blasphématoires, alors que pas du tout, puisque je vais vers les gens, j'ai plein d'amour dans mon cœur, et que je suis rassembleuse, et que je suis plus terrienne qu'autre chose et que j'ai tellement envie que tout le monde soit heureux et que des fois je suis très malheureuse parce que ce monde y tourne mal. Alors, donc il suffit, tu sais, il suffit par exemple d'une phrase en disant ne serait-ce que, écoutez, voilà, toutes les religions sont belles, il n'existe qu'un Dieu, la pratique, bon, moi je... Alors il y a des gens, ils vont me tomber dessus en me disant mais sur un ton, mais très agressif. Alors moi j'ai envie de leur dire à ces gens-là, comment vous pouvez croire en Dieu et parler de Dieu avec un ton aussi, aussi guerrier et aussi haineux à mon égard, à la limite je blasphème, mais soyez pardonneur puisque lui est miséricordieux. Mais même pas vous avez cette attention à mon égard, moi, même pas.
Tu sais quoi, Vanessa, je te promets, excuse-moi, parfois, oui. Plus je t'écoute, et vraiment j'apprécie, je me dis, celle-là, elle ne se fait pas que les amis, hein, parce que, mais en même temps, c'est clair. Je me dis, parce que, franchement, je te tire chapeau, parce que voilà, tu as le mérite de dire les choses, parce que je partage entièrement, mais je me dis, ces gens-là, voilà, quoi, mais on est d'abord des humains, quoi.
Mais oui, mais c'est ça.
Pas notre même ennemi. Regarde-le comme un humain. Il a les mêmes aspirations que toi.
Tout à fait.
Chaque être humain aspire au bonheur. Chaque être humain.
Tout à fait. Soyons dans l'observation. Soyons dans l'observation, dans l'amour universel. Et ne soyons pas dans le jugement.
Mais c'est ça.
Et le problème des religieux, ils sont tous dans le jugement et dans les rappels. Et ça est trop. Et ça, c'est ce qui justement dessert la religion.
Et ce que disait
et c'est ce
Nadia,
qui éloigne. Oui.
Ouais. Mais clairement, ce que disait Nadia, par exemple, c'est vrai que les dans la religion, encore une fois.
Oui.
Que,
vite.
Voilà. Le mout, Azadoukab et tout ça. Non mais.
Je te reprends juste après, Yahya. On a la petite pause. Tu veux bien? À tout de suite. Merci.
À tout de suite.
La libre antenne de Vanessa revient dans un instant. Un sujet à évoquer, une question à poser, vous avez la parole au 01 53 48 3000.
Et on retourne à Boulogne-Billancourt avec Yahya. Yahya qui est toujours là, il a été patient, c'est bien,
ouais,
bravo. Je te laisse continuer Yahya, oui c'est fort intéressant en tout cas que cet échange. Hein.
Bah écoute, voilà, je ne sais plus où est-ce qu'on s'est arrêté, mais en tout cas voilà.
En tout cas c'est très pratiqué, en France c'est peut-être nouveau et qu'on est très frileux hein, en tout cas, concernant en tout cas toutes ces pratiques. Je ne sais pas, la France elle a toujours été à la traîne. En tout cas en Suisse, c'est clair que depuis longtemps c'est pratiqué. Aux États-Unis, dans certaines universités... c'est enseigné. Oui, la France, je sais pas, on est toujours à la traîne, on a du mal à accrocher.
Ouais, quoique là, ça commence quand même, franchement.
Tant mieux, vraiment.
Si ça commence là, il y a, disons, 3-4 ans, là, ça commence en fait, c'est. Aux États-Unis, c'est vrai que ça l'est depuis plusieurs années. Mm-hmm. Mais en France, ça commence à l'être un petit peu, on en parle de plus en plus, franchement. Franchement, j'en parle de
tant
plus
mieux.
En plus. Ouais. Et c'est introduit maintenant dans pas mal de centres hospitaliers également. Le premier qui a introduit ça, d'ailleurs, c'est Christophe André, d'ailleurs, qui est vachement intéressant.
D'accord.
Également. C'est un psychiatre, mais qui a introduit ça. Et sincèrement, franchement, vraiment, je le dis du fond du cœur, j'invite vraiment ceux qui, justement, souffrent vraiment d'anxiété et de peur de la mort, parce que je pense que une des formes d'anxiété.
Ce serait bien de l'enseigner, moi je sais pas, mais tôt dans les écoles, même à la limite, peut-être au collège, avant le lycée. Tu sais, pour ce c'est même pas dans le domaine thérapeutique. Non, c'est carrément pour préparer justement de futurs adultes à devenir, pas à venir à l'âge adulte avec une charge lourde de préjugés, avec des idées, tu vois, complètement fermées, obstruées, etc. Enfin, moi, je pense que ce serait une bonne chose pour éviter. Je parlais de préjugés, et c'est ça justement c'est ça qui sclérose la société, c'est ça qui nous tue en vérité, c'est ça qui divise. Eh bien, pour arriver à mettre fin à tout ça, eh bien, moi, je pense que ce serait bien de peut-être pas d'en faire une pratique thérapeutique, mais juste un peu initié, tu vois, un peu les jeunes. Ouais. Hein, pour se débarrasser justement de ces fausses croyances, de ces faux jugements, parce qu'on a systématiquement, on fait appel justement à ce qu'on a entendu par-ci par-là, hein, et on porte des jugements sur les autres, hein, forcément.
Et ça, c'est clair.
Et ça, c'est ce qui justement pollue notre société. C'est une bonne méthode, hein, vraiment.
Non, franchement, moi, j'invite vraiment les gens. Je te disais, c'est vrai, en plus, bon, il y a le versant thérapeutique, bien sûr, comme je te disais, un
bien protocole sûr.
Bien défini, etc.
Tout à fait.
Mais la pratique en tant que telle, franchement, c'est une pratique que tout le monde, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Et sincèrement, ça ne peut apporter que du bien. Ce que je dis, en fait, tout simplement, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal.
Ça ne fait pas de mal.
C'est juste rester assis, oui. Et puis voilà, rester juste avec son souffle.
Se libérer des pensées, des idées toxiques.
Voilà. Mais franchement, c'est juste ça, en fait. Et par contre, les bénéfices, je te promets que... Bien sûr, hein, pas du jour au lendemain, on est d'accord. Mais c'est clair que c'est pas... C'est, voilà, avec le temps, tu sais, c'est des petits signes comme ça, c'est des petits signes qu'on se dit... Purée, finalement, voilà, je pense que ça, c'est grâce à la méditation. C'est grâce à cette pratique.
Mais moi, ça, j'y crois complètement, parce qu'à ma manière, moi, j'en fais un peu tous les jours, ne serait-ce qu'au moins une heure ou deux dans la journée, j'en ai déjà parlé à l'antenne, où je suis dans cette méditation, dans le silence, dans le recueillement, et puis surtout, en chassant toutes ces idées, parce que je suis comme tout le monde, et que parfois, je me laisse vraiment polluer l'esprit avec de fausses croyances, de fausses idées, etc. Donc, dans cette méditation, eh bien, je retire tous ces filtres qui me font pas de bien, et voilà, toutes ces fausses idées, et voilà. On devrait chaque jour prendre un peu de temps, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et faire un peu de méditation et se vider l'esprit avec toutes ces idées, ces pensées toxiques qui nous viennent d'ailleurs, hein, de toute façon, hein, qu'on traîne avec nous et qu'on pense être nôtres. Mais alors que pas du tout. Ce sont des pensées de nos parents, de nos familles, de nos amis, de notre entourage. Mais voilà, on cumule. Comme des objets, quoi, voilà. Imaginez par exemple votre chambre là où vous dormez et que tous les jours vous émettez par exemple, je sais pas, tout ce que vous mangez, et bien tous ces emballages, et bien vous les jetez dans votre chambre, et bien à un moment donné vous n'allez plus pouvoir entrer dans cette chambre, quoi, elle est complètement
carrément,
et votre esprit carrément. C'est pareil, ça se nettoie tout absolument. Ça
C'est bien résumé, mais franchement, c'est ça. Et puis moi, c'est ce que je dis. Tu sais, dans ces pratiques méditatives, il y a ce qu'on appelle la pratique de la méditation de bienveillance. Justement, on commence d'abord par soi, et puis on élargit le champ petit à petit aux amis le plus proche, à la famille, et puis aux voisins, et puis aux gens du quartier, et puis aux gens de la ville, et puis aux gens du pays, et puis aux gens du continent, et puis aux gens de cette planète, et puis à tout cet univers.
Donc
tu vois, et sincèrement, je te dis, c'est... À force de pratiquer, et on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aimerais tellement, c'est un souhait, peut-être que ça va se réaliser un jour, tout le monde puisse s'y mettre un jour.
Ouais. Et tous les jours devraient faire une petite séance. Et puis en plus, ça peut faire que du bien pour notre organisme, parce que à la base, il y a aussi il y a cette respiration, parce qu'on ne sait pas respirer, hein, de toute façon. Donc il faut apprendre à respirer, à bien respirer.
C'est clair. Ben voilà.
Ouais. Bah écoute, merci Yahya pour ce moment.
C'est moi qui te remercie beaucoup.
Formidable.
En tout cas, c'était ma première intervention. Ça m'a vraiment fait plaisir.
Ah ben moi
et
aussi.
Puis, j'espère avoir le plaisir et l'occasion de rappeler,
j'espère.
De participer, contribuer à ma manière. Avec les sujets que t'abordes.
Ben écoute, tu seras le bienvenu. Reviens. Moi, je le demande. D'accord.
Eh ben, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir.
C'est très gentil.
Merci beaucoup à toi. Et puis, je t'en prie. Avec plaisir. Et bonne soirée
à toi aussi. Bonne méditation. À bientôt.
Bisous. Merci
beaucoup. Ciao. Au revoir. Merci, Yahya. À bientôt. Oh, c'était un moment formidable, vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que cette pratique de la pleine conscience, hein, la méditation, et je trouve vraiment formidable et bienfaitrice, hein, que tout le monde devrait essayer, hein, une petite séance, même soi-même, apprendre à par la respiration, etc. L'initiation, elle est très simple, mais par contre, le travail est long, hein, pour arriver à un résultat, bien sûr. Donc c'est la méditation par la pleine conscience, voilà. Allez, 01 53 48 3000. Eh bien, tout de suite, on va accueillir Laura. Elle nous appelle de Paris. Bonsoir, Laura.
Bonsoir Vanessa, comment tu vas?
Oh ma Lolo, bonsoir, bienvenue à toi. Très bien, je te remercie.
Ça va, je t'aime bien parce que t'es toujours comment, t'es toujours souriante, t'es toujours en train de rigoler. T'es oh. comme moi, toi. Hein.
Ah ben j'aurais bien le temps de plus rire hein, une fois que je serai sous terre, j'aurais plus l'occasion. Hein. Alors donc là, je rirai jusqu'au bout de ma vie. Voilà, j'ai décidé.
oui, donc je comment le sujet aujourd'hui, c'est la mort, c'est ça?
Alors, ah oui, alors aujourd'hui, nous parlons de comment surmonter la peur de la mort. Et on y avance, on avance, on avance, et on a beaucoup avancé, on a fait un grand pas de géant avec Yahya, hein, avec cette pratique qu'il propose, et c'est du vécu, donc ça, je tiens absolument à le préciser et à le conseiller, hein, toute personne qui se sent anxieuse, pas seulement vis-à-vis de la peur de la mort, mais de tout, de la vie, tout simplement, hein, le stress du travail, de l'entourage, de son entourage familial, etc., etc., le stress de la vie, eh bien, essayez, vous allez voir que vraiment, le bienfait que ça va vous apporter. Mais c'est juste ouais. merveilleux, quoi. Voilà.
Oui, parce que... Non, c'était juste pour... Je t'ai appelé, c'était juste pour te dire, parce que tu sais, chez nous, aux Antilles, on sait quand on va mourir.
Ah, aux Antilles, on sait quand on va mourir. Allez, c'est la meilleure,
attends,
celle-là.
Non, attends.
Ah, les Antillais,
ils
détiennent le secret de la mort. Oui,
non, attends, je t'explique. Parce que tu sais, chez nous, tu sais que les gens, ils prient beaucoup.
Ah oui, mais c'est pas que chez vous. Aujourd'hui, c'est la prière, elle est où, là?
Non, c'est pas ça. Il y a la prière qu'on appelle le prépa. Donc, c'est-à-dire la préparation.
Mmh.
Et ce qui se passe, c'est que apparemment, je sais pas, il y a quelque chose qui te prévient.
C'est-à-dire?
Il y a quelque chose qui prévient la peur. Je t'explique. Par exemple, moi, pour mon père spirituel, moi, je me souviens, par exemple, après le travail, j'arrivais chez lui, je m'allongeais sur mon.
C'est qui ton père spirituel?
Par exemple. Comment?
C'est qui? Ton père spirituel, tu dis?
Non, c'était un monsieur qui m'a aidé.
Comme un prêtre spirituel.
Comment?
C'est un prêtre?
Non. Ouais. Non, c'était un homme c'est un monsieur quand j'avais beaucoup de problèmes dans la vie. Il m'a aidé.
C'est un thérapeute.
Non, c'est-à-dire
Ah, c'est un proche gentil, sympathique, comme
voilà,
un nom.
C'est un monsieur
comme
un tonton. Qui est dans la vie, voilà.
D'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui t'a porté. Voilà.
Donc, en fin de compte, ce qui se passait, c'est que comment expliquer? Donc, c'est-à-dire que quand j'arrivais du travail, mm-hmm. dans sa chambre, il y avait toujours la télévision.
D'accord.
Et donc, moi, j'avais l'habitude de... je rentrais et je m'allongeais sur son lit. Eh bien, Vanessa, un mois avant sa mort, il m'a dit, non, Laura, c'est terminé. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, non, tu t'allonges plus sur mon lit. Et Vanessa, je lui ai dit une chose. C'est après, il y a une vieille antillaise qui m'avait dit ça. Mais moi, je ne savais pas, je ne te dis pas, il m'a fait peur. Parce que quand je me suis assis sur son lit, et après, il me disait... Tu sais, ses dernières volontés, Vanessa.
Mm-hmm.
Pendant un mois, il m'a dit, je dis, mais c'est quoi ça, c'est quoi? Il me dit, oui, faut faire ça. Et c'est après, j'ai été voir une vieille antillaise, et la vieille antillaise qui me dit, non, c'est parce que Michia qui est mort, et qui a dit exactement ça pour faire. Pour... Mais je ne te dis pas, Vanessa, ça m'a fait peur. Hein. Et, tu vois?
Oui.
Ça m'a fait peur et c'est après, moi, on m'a dit ça, on m'a dit non, parce qu'il y a des... Mais c'est pas tout le monde, hein, mais effectivement, il y a des gens qui savent exactement... je sais pas comment t'expliquer ça, mais ils savent quand le jour va arriver.
Mmh. Bah écoute, s'ils savent le jour où ça va arriver, je sais pas, je pense pas qu'on sache.
Ouais,
sinon ce serait la panique à bord et que
voilà,
je pense à mon avis que bon, il y a des gens qui appréhendent. Il y a des gens qui sont très malades, donc que, voilà, les médecins disent, hein, il leur reste 6 mois, 1 an, enfin 3 mois, tout dépend de l'avancée de la maladie.
Pour la maladie, c'est normal.
Voilà, ça c'est une chose.
Maladie,
par contre, prévoir vraiment la mort, je sais pas. Tu vois, là-dessus, j'ai un doute. Voilà, j'ai un doute. Uh-huh. On peut prévoir beaucoup de choses, mais la mort, c'est autre chose.
Donc je sais pas, moi je sais que chez nous il y a beaucoup de gens qui dit comme ça que bon apparemment il y a je sais pas, il y a une prière. Mm-hmm. Il y a une prière, on appelle ça la préparation, et apparemment on vient te prévenir, quoi.
Ouh là là, c'est compliqué. Oui, mais enfin, tu sais, ça, il y a des aussi autour de ça, il y a beaucoup dans les cultures des choses qui viennent se greffer comme ça avec des esprits. Alors, on va parler d'esprits qui viennent te visiter, qui viennent. Ça, je veux dire, dans toutes les cultures, on est fervent de ça, on est friand, on adore.
Non, mais c'est pas des esprits, c'est des. Pour moi, c'est des.
Oui, mais qui viennent. Oui, mais alors, il y en a, c'est les esprits qui viennent visiter, qui viennent dire aux gens, voilà. Ou alors, bon, un être humain, ça reste un être humain. Pour qu'un être humain sache le jour de sa mort, bah, celui-là, je pense qu'il n'est pas encore né. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que même Jésus, il ne savait pas qu'il allait un jour mourir, ou le prophète Mohammed, ou un autre. Je pense que c'est des êtres humains, et que personne ne pouvait prévoir le jour de sa mort. On peut prévoir beaucoup de choses, on peut prévoir des choses, etc. Mais vraiment, le moment de sa mort, je pense que non, parce que d'abord, ça ferait peur aux vivants. Et puis que je pense qu'il y a des règles. Quand on vient à la vie, je le pense fortement, qu'il y a des règles à respecter. Et ces règles, on ne pourra jamais les enfreindre. C'est quoi? C'est de savoir le moment de sa mort. Ça, c'est quelque chose qui relate du mystère. Et heureusement, d'ailleurs, heureusement, on deviendrait fou. T'imagines? Tu sais le jour et le moment est là. Mais tu deviens dingue, t'attends que ça. Tu restes dans un coin et t'attends et tu trembles. C'est pas possible. Bah oui. Non, on a beau dire qu'on n'a pas peur de la mort, ok. Mais si on savait le jour et l'heure, on vivrait pas. C'est pas possible.
Non, c'est vrai que moi.
Vite, Laura, parce qu'on a la pause. Je te laisse que terminer.
C'est vrai que moi, ça me fait pas peur, là, bon. Mais ce qui me fait plus peur.
Vite.
C'est de voir, tu sais, tous les gens que j'aime mourir avant moi. Voilà.
Oui, mais ça, c'est le lot de tout le monde. On n'a pas envie de voir les autres. Voilà. Laura, je suis obligée de te laisser parce qu'on a la pause, ma petite chérie. Je te fais de gros bisous.
D'accord.
Et je te souhaite une longue vie. Très, très longue.
À toi aussi.
Centenaire. Bisous, à bientôt. C'est désolé pour Nawel et les autres. Et bonsoir, Jérémy.
Bonne nuit, Vanessa. Bonne nuit à tous.
Eh bien, faites de beaux rêves. Belle et douce nuit, faites de beaux rêves. Et on se donne rendez-vous demain à partir de 21h avec un nouveau projet, j'allais dire, oui, un nouveau sujet. À demain, je vous aime. Bye.